Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. Et jouez sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pilice,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Ignace de Loyola,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oups. Alors, nous en sommes à la page 30, 35. Donc, certains, vous avez tous un papier. C'est plus facile dessus sur la... Qui n'a pas la feuille. 35-36. Donc la dernière fois, on a... tout le monde là. Corinne. La dernière fois, on a terminé la béatitude. On était sur la béatitude. Alors là, il y a un traité sur les actes humains, qui est un traité assez philosophique. Donc je vais passer sur certaines choses, vous donner simplement les parties les plus importantes pour vous. Encore une fois, n'oubliez pas que le but de la manœuvre, ça j'insiste parce que je connais certaines personnes qui vont vite me faire leur proche. Oui, vous êtes pas assez, vous allez pas assez profondément dans votre des gens extérieurs, pas assez profondément dans vos cours, c'est trop superficiel, c'est pas un cours de théologie. Marie a toujours été la même, laissons les ânes braire. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas du tout le but du cours. Le but du cours n'est pas de faire un cours de haute théologie, de haute volée. D'abord, je ne suis pas capable. Deuxièmement, je ne pense pas que ce soit ce dont on est finalement vraiment besoin. Par contre, le but, c'est vous faire aimer Saint Thomas. Faire aimer Saint Thomas. Si les gens qui écoutent ce cours, je sais que c'est déjà arrivé, parce qu'il y en a qui m'ont dit au téléphone, que je ne connais pas. Si les gens qui écoutent ce cours ont envie après de se mettre à l'étude de Saint Thomas, d'ouvrir la somme théologique, de grâce à Dieu aussi mon truc. Mais c'est ça qui compte. Alors, au niveau des actes humains, Saint Thomas va commencer d'abord par définir un peu les circonstances qui sont nécessaires dans le jugement d'un acte. Donc c'est à la page 35, 1, 2, 3 paragraphes avant la fin. Devant, ça commence par la phrase « Le volontaire appartient à l'acte, une opération rationnelle bon. ». Donc Saint Thomas va étudier les actes humains dans le rapport avec le volontaire. Si un acte est involontaire, ne relève pas du volontaire, ce n'est pas ce qu'on appelle un acte humain. Bon, par exemple, la respiration, la digestion, votre muscle cardiaque qui, en principe, fonctionne à peu près normalement, ça, ce ne sont pas des actes volontaires. On est compte bazar, s'il fallait penser à respirer toutes les 30 secondes et penser à recharger un pit cardiaque toutes les secondes. Bon, ce sont des actes qu'on ne peut pas contrôler. Ça ne regarde pas la morale. Il n'y a pas de moralité sur ces fonctions. Par contre, le volontaire... Par définition, c'est ce qui procède de la volonté. Hein. Donc, le volontaire va procéder de la volonté, et c'est là où doit intervenir quelque chose qui s'appelle la raison. Donc, la raison va illuminer le volontaire. Selon l'action de la raison, eh bien, à ce moment-là, le volontaire va être coupable ou non. Donc, en haut, vous avez Dieu. En dessous, vous avez la raison, et en dessous, vous avez la volonté. Bon. L'intelligence et la volonté. Donc, pour pouvoir juger d'un acte, si vous voulez, il faut d'abord connaître toutes les circonstances. C'est pour ça qu'on peut très difficilement juger parfois l'action, parce qu'il y a toute une série de circonstances qui entrent en ligne de compte. Il faut tenir compte de ces circonstances. Hein. Nous-mêmes, en tant que prêtre, moi je le fais tout le temps, parfois des gens qui veulent absolument qu'on prenne des décisions comme ça à l'emporte-pied sur des actes humains qui ont été commis par certaines personnes, et vrai qu'on peut donner un jugement tout de suite. Et dans bien des cas, on ne peut pas donner un jugement. Pourquoi? Parce que pour pouvoir donner un jugement, pour faire un jugement, porter un jugement sain sur une action déterminée, il faut avoir tous les sons de cloche, et puis il faut aussi connaître toutes les circonstances. Ça s'arrive régulièrement. J'ai encore reçu un coup de téléphone hier, comme ça, pareil, quoi. Monsieur voudrait absolument que je prenne. Il y a des disputes dans le ménage. Monsieur voudrait absolument que je prenne fait et cause pour monsieur, évidemment, contre madame dans le mariage. Sauf qui peut, on sent. Là, c'est vraiment la fuite est perdue, littéralement. Je ne suis surtout pas m'emmêler. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas juger de choses comme ça sans connaître toutes les circonstances. Et quand on n'est pas dans le ménage, c'est pratiquement impossible de connaître les circonstances. Donc on donne les principes et après, c'est aux gens de prendre leurs décisions. Et c'est une énorme erreur à absolument éviter pour nous prêtres, surtout quand on est obligé de se mêler de certaines difficultés de ménage qui peuvent arriver dans tous les ménages du monde. Eh bien, si on écoute simplement monsieur, bon, on a tendance à suivre évidemment ce que monsieur dit. Si on écoute ce que dit madame, on a tendance à suivre ce que dit madame. Et donc, dans bien des cas, il ne faut pas prendre position, tout simplement. Il faut laisser un petit peu les gens se débrouiller. Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai mis ici les différentes. Ça, c'est la philosophie de base. Donc, les différentes circonstances. Hein. Alors, pour que la volonté puisse s'exercer correctement, donc encore une fois, il y a l'éclairage de la foi. La foi va éclairer, illuminer la raison, l'intelligence, si vous voulez, et la raison va illuminer la volonté, et la volonté va illuminer les passions. Donc, il y a une gradation, si vous voulez. Bon, pour l'usage du lâche, dans l'usage de la volonté, il y a une vertu essentielle qui va intervenir, c'est la vertu de prudence. La vertu de prudence, c'est la vertu de prudence qui doit contrôler la raison. Donc là, une raison qui n'est pas contrôlée par la vertu de prudence, ça fait des catastrophes. La vertu de prudence, donc c'est une vertu qu'on appelle une vertu cardinale. Attention, ce n'est pas des vertus théologales. Hein. Une vertu cardinale, donc il y a la force, la justice, la prudence et la tempérance. La tempérance, la prudence, justement, va agir directement sur la volonté pour aider la volonté à être raisonnée. Bon. Encore une fois, la grosse difficulté, c'est que dans le monde moderne, tout pousse à séparer la volonté de l'intelligence. Considérer les deux choses comme complètement indépendantes. En fait, la volonté et l'intelligence doivent travailler ensemble. Il faut que l'intelligence contrôle la volonté, pas l'inverse. L'intelligence en soi est supérieure à volonté. Pourquoi? Parce que l'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. Bon. Et donc, puisqu'on touche au vrai, il est évident que dès qu'on touche au vrai, il y a une lumière supérieure qui va agir également, c'est la lumière de la foi. D'accord? Bon, certes, on peut obtenir déjà, on peut atteindre le vrai sur un domaine purement philosophique sans l'intervention de la raison, je veux dire de la foi, mais la prudence va toujours agir là-dedans. Donc la vertu, c'est pour ça qu'on dit, et c'est très vrai, que la vertu du chef, c'est pas la force comme tout le monde le croit, mais la prudence. Alors, rappelez tous, je vous ai déjà expliqué, c'est quelque chose de très connu. Saint Thomas avait été appelé une fois à légiférer dans un couvent. Un couvent, ils n'arrivaient pas à élire l'abbé. Il y avait des disputes, des factions dans le couvent. Et il y a trois factions essentielles, ils n'arrivent pas à se décider pour élire un abbé. Un abbé dans un couvent bénédictin, c'est pas n'importe quoi, parce qu'il est élu à vie. Donc il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Une fois que vous avez élu un abbé, c'est pour toute la vie de l'abbé. Alors ils n'arrivaient pas à se décider. Donc connaissant la sainteté, la haute sainteté, la haute prudence de saint Thomas d'Aquin, ils ont appelé saint Thomas d'Aquin pour demander est-ce qu'il vient donner une aide, un petit peu, son cloche, pour qu'on puisse élire convenablement celui que bon Dieu voulait comme chef de la communauté. Et il a demandé simplement des renseignements sur les trois factions, et les trois personnes qui se présentaient littéralement. Et la première, elle dit, bon, le premier, il est extrêmement intelligent. L'intelligence, c'est une intelligence prodigieuse, il connaît toute la bibliothèque du couvent par cœur. Et saint Thomas a dit très bien qu'il enseigne. Et le deuxième, il passe sa vie à la chapelle, il prie toute la journée, c'est extrêmement pieux, très bien qu'il prie. Le troisième, il n'est pas très intelligent, il n'est pas très pieux. Il a l'intelligence minimale, il a la piété minimale, mais extrêmement prudent, très bien qu'il dirige. Et saint Thomas a demandé à ce qu'on poussé, à ce qu'on nomme comme supérieur celui qui est prudent. Et ça, c'est très important parce que c'est des choses aujourd'hui qui ne passent plus du tout. Quand on explique ça aux gens, les gens ne comprennent pas que la vertu de prudence, c'est la vertu du chef. Ce n'est pas la vertu de force qu'on croit. Ce n'est pas parce que quelqu'un a la force que ça veut dire qu'il est un bon chef. Un bon chef, c'est quelqu'un qui sait juger un acte par la raison, juger la volonté, utiliser la volonté avec l'aide de la raison en fonction des circonstances. Et les circonstances, si vous voulez, vont nous donner toute une série de facteurs. Il faut tenir compte de tous ces facteurs pour porter un jugement. Et c'est là où la prudence intervient. Alors, quelles sont les différentes circonstances? Alors, où est le problème? Le problème, c'est que le péché originel est là. Bon, je vous ai déjà dit que la volonté, elle va être blessée par une blessure essentielle du péché originel, qui est la blessure de malice, malice de la volonté. Malice de la volonté, ça veut dire qu'on a tous tendance à utiliser notre volonté un peu comme un serpent, si vous voulez, qui va toujours serpenter à droite et à gauche, et ne pas aller droit vers son but. C'est la grosse difficulté. Donc, puisque la volonté, il y a la malice de la volonté, donc il va falloir justement exercer l'aide du bon Dieu, demander l'aide du bon Dieu pour qu'on puisse, si vous voulez, pour qu'on puisse guérir en quelque sorte ces blessures. C'est pour ça qu'il y a les quatre vertus cardinales viennent justement pour contrôler les blessures. Donc les quatre blessures, il faut constamment revenir à ces choses-là. J'ai déjà expliqué, mais j'explique parce que c'est capital pour comprendre le traité. Donc les quatre vertus, quatre puissances de l'âme. Vous avez l'intelligence, vous avez la volonté, vous avez l'irascible et vous avez le concupiscible. L'irascible, c'est pouvoir. Je vais expliquer ça très rapidement parce que j'ai déjà expliqué ces choses-là souvent. Donc l'objet de l'intelligence, c'est le vrai. L'objet de la volonté, c'est le bien. L'objet de l'irascible, c'est le bien ardu. C'est le bien difficile à obtenir. Et l'objet du concupiscible, le bien désirable. D'accord ? Alors, chacune de ces puissances de l'âme est blessée par le péché originel. Donc, la blessure la plus profonde, c'est laquelle ? La blessure la plus profonde. C'est la blessure sur l'intelligence. Pourquoi ? Parce que l'intelligence est de toutes les différentes parties de l'âme la plus importante. D'accord ? Donc, la blessure qui va attaquer l'intelligence, c'est laquelle ?
L'ignorance,
exact. Ignorance. Après, la volonté.
C'est la
non. Qu'est-ce que vous avez entendu?
La malice,
oui. Après, l'irascible, la faiblesse. Et concupiscible.
La concupiscence.
Donc vous voyez que chaque puissance de notre âme a son propre problème. L'ignorance, la malice, la faiblesse, la concupiscence. Comme la puissance la plus importante, c'est l'intelligence. Donc la blessure qui fait le plus de dégâts, c'est l'ignorance. D'accord ? Et donc tous les péchés, quels qu'ils soient, vont dépendre d'une de ces quatre blessures. Par exemple, la paresse, vous la classez où ?
Faiblesse.
La faiblesse, oui. Le vol.
Malice,
la gourmandise.
Concupiscence.
L'orgueil.
Ignorance.
D'accord ? Donc, puisque les puissances de notre âme sont blessées, il va falloir rectifier le tir. Pour rectifier le tir, le bon Dieu va donner les vertus spéciales. Donc, pour lutter contre l'ignorance, quelle est la vertu fondamentale ?
Humilité.
Non ? Donc il y a quatre vertus cardinales qui vont s'opposer, qui vont aider à remonter les blessures qui sont les conséquences du péché originel. La prudence, justement. L'ignorance corrigée par la prudence. La malice.
La justice.
La justice, exactement. Après, la faiblesse.
La force.
La concupiscence,
la tempérance.
Alors, avec ces quatre vertus cardinales, qu'est-ce qui va se rajouter ?
Les vertus
théologales, ce sont au début. Les vertus théologales, c'est foi, espérance, charité. Ça se passe ici, avant tout. Et charité. C'est un peu spécial. Vertu théologale, ton Dieu pour objet. C'est une vertu cardinale. Mais comment, qu'est-ce qui va aider les vertus cardinales à s'exercer proprement ? Quelque chose qui va se rajouter ?
La grâce sanctifiante.
Les dons du Saint-Esprit.
La grâce sanctifiante, oui, la grâce sanctifiante. Est-ce qu'on peut avoir la prudence, la justice, la force et la tempérance sans l'état de grâce?
Non.
Eh oui. Est-ce qu'on perd toute prudence parce qu'on est en tel péché mortel? Est-ce qu'on perd toute prudence, même surnaturelle, parce qu'on est en tel péché mortel? Non. On peut garder donc une prudence. Quelqu'un peut être, par exemple, vivre tranquillement avec la femme du voisin et garder une grande justice dans un juge. Il peut très bien être vivre avec la femme de son voisin, vivre tranquillement en tel péché mortel, mais dans son travail de juge, être parfaitement juste par rapport aux lois qu'il doit appliquer. Il peut même avoir une vertu surnaturelle de justice, parce que toutes les vertus surnaturelles ne disparaissent pas avec le péché mortel. Qu'est-ce qui va disparaître? C'est la grâce sanctifiante qui disparaît. Donc la grâce sanctifiante, elle va travailler là-dessus par les dons du Saint-Esprit. Donc les dons du Saint-Esprit vont en quelque sorte s'exercer sur les quatre vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance, pour justement aider ces quatre vertus cardinales à tenir sous contrôle les blessures. Et donc, pour ce qui nous concerne ici, c'est là on va parler surtout de la vertu de prudence dans le choix des actes humains, puisque c'est le titre de ce traité qu'on utilise actuellement, les actes humains, pour agir. Dès qu'on agit dans un monde moderne, on va agir avec des gens qui sont autour de nous. D'accord ? Donc, il va falloir faire attention dans les actions que nous faisons d'agir de telle façon que le prochain ne soit pas lésé. Donc, il va se rajouter immédiatement à cette vertu de prudence, qui est la vertu de l'action, donc la vertu du chef. Le chef, c'est celui qui agit. Va se rajouter immédiatement un don spécial pour agir sur la prudence. C'est lequel ? Le conseil. Donc, le conseil qui arrive là. Il y en a plusieurs, en fait, parce que c'est ça, un petit peu, qu'il faut comprendre, c'est qu'on sépare les dons du Saint-Esprit pour des raisons didactiques, pour des raisons d'explication. En fait, les sept dons du Saint-Esprit sont tous unis. De telle façon que s'il y en a un qui manque, tous manquent. Alors, on ne perd pas la prudence, la justice, la force et la tempérance, si on est un tel péché mortel, pas forcément en tout cas, mais est-ce qu'on perd le conseil? Oui, parce que là, c'est un don du Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que les dons du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la couronne de la charité. Couronne de la charité, ça travaille ici avec la charité, donc c'est l'état de grâce. L'état de grâce, charité, c'est pareil. Donc si on perd la charité, on perd l'état de grâce. Si on perd l'état de grâce, on perd tous les dons du Saint-Esprit. Donc on peut encore avoir une certaine prudence naturelle, voire même une certaine prudence surnaturelle, mais on perd l'éclairage divin de la pratique de ces vertus. Essayons de faire des grosses bêtises. Vous voyez ? Donc le conseil va agir à ce moment-là. Donc, les différents dons du Saint-Esprit vont agir en fonction des nécessités. Dans certaines actions à commettre, qu'on est amené à faire, il va falloir exercer soit davantage la prudence, soit la justice, soit la force, soit la tempérance. Pourquoi ? Ça va dépendre des attaques qui vont se venir contre nous. Si c'est des attaques qui regardent les trois concupiscences, la chair, les yeux ou l'orgueil, c'est surtout la tempérance qui va agir. D'accord ? Si au contraire une attaque contre la faiblesse, une attaque de faiblesse ou une attaque de malice ou une attaque d'ignorance, et bien donc les quatre vertus cardinales vont devoir s'exercer. Prudence, justice, force et tempérance. Prudence contre l'ignorance, justice contre la malice, force contre la faiblesse, tempérance contre la concupiscence. Et c'est là où agissent les dons du Saint-Esprit. Et donc la plupart du temps, sur un plan naturel, on est capable encore d'avoir des actions correctement, qui sont correctement posées, mais il manquera toujours quelque chose pour celui qui n'est pas en état de grâce. Celui qui n'est pas en état de grâce a perdu la couronne de la charité, donc il perd l'usage des dons du Saint-Esprit. Il n'a donc plus l'éclairage surnaturel dont il a besoin. D'accord ? Alors, voyons un petit peu justement ces différentes circonstances, parce que ça c'est quand même des choses, bon c'est de la philo, mais c'est important dans la vie de tous les jours. Pour essayer de déterminer quelles sont les circonstances qui vont mener mon action, donc il faut répondre d'abord à quatre questions. Donc, ça, on va toucher à ce qu'on appelle les causes. Les quatre causes, c'est des choses qui sont connues, j'y reviens rapidement. Donc la première question qui va se poser, et c'est la question qui va regarder la cause finale. La cause finale, c'est quoi ? C'est pourquoi j'agis. Donc, la cause
la cause finale, je ne vous dis pas de bêtises. C'est ça, la cause finale, si vous voulez, c'est répondre à la question quel est le but de mon action? Pourquoi je fais telle action? D'accord? Bon. C'est ce qu'on appelle la cause finale. La cause finale, c'est pourquoi? Pourquoi j'agis? Bon. La cause finale, c'est aussi où est-ce que je vais? Où je me dirige? D'accord? Il faut répondre aussi à la question où est-ce que je vais? D'accord? Pourquoi j'agis? Où est-ce que je vais? Cause finale. Après la cause, efficiente. Efficiente, c'est quoi? C'est qui fait l'action? D'accord? Donc la cause efficiente, c'est répondre à la question qui? De qui part l'action? D'accord? Après, il faut répondre à la cause matérielle. Et enfin, la cause formelle. Bon, c'est important de connaître ces choses-là parce que ça aide, quand on connaît ces choses-là, ça aide à définir les choses. Saint Thomas d'Aquin, avec raison, dit qu'une chose est correctement définie quand on a répondu à ces quatre questions. Les gens, ça, c'est très important ce qu'on appelle la logique. Les gens modernes ne sont plus capables de définir quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de filo du tout. Et donc, ils vont définir une chose en utilisant le mot même qu'ils cherchent à définir. Vous voulez définir quelque chose, il faut pouvoir répondre à la cause finale, c'est-à-dire pourquoi cette chose, à quoi sert cette chose. Cause efficiente, qui est-ce qui fait la chose? Cause matérielle, avec quoi cette chose est-elle faite? Et cause formelle, comment la chose est-elle faite? D'accord? Donc, l'exemple classique qu'on prend tout le temps, c'est l'exemple d'une statue. Bon, quelle est par exemple la cause efficiente de cette statue qui est sur la table?
Hein?
Voilà, la personne, le sculpteur qui a fait la statue. Donc, on répond à la première question. Si vous voulez définir cette statue, je vais définir la statue qui est sur ma table ici, Notre-Dame de Montserrat. Bon, première question. Les causes efficientes, il y a qui a fait cette statue? Cette statue a été faite par un sculpteur. Bon, cause finale. Pourquoi la statue a-t-elle été faite? D'accord? La statue a été faite parce que le sculpteur a une dévotion particulière, par exemple, pour Notre-Dame de Montserrat, tout simplement parce que c'était son métier, qu'il voulait vendre la statue pour nourrir sa famille. Bon. Après, cause matérielle, avec quoi la statue est-elle faite? La statue est en bois, ça c'est du bois. Bon, statue est en bois, cause formelle, c'est la forme extérieure qu'on donne au bois. D'accord? Donc, pour pouvoir définir quelque chose, il faut définir avec les quatre causes. Donc, la statue que j'ai devant moi, donc, est un bout de bois qui a été taillé pour représenter Notre-Dame de Fatima par un sculpteur afin de faire vivre sa famille devant la statue. À ce moment-là, tout a été défini. Et quand c'est ça qui est magnifique avec Saint Thomas d'Aquin, c'est que Saint Thomas d'Aquin nous apprend, dans sa méthode philosophique, nous apprend à tourner, à faire entrer tous les composants dans les circonstances de telle façon que tout se définit. C'est pour ça que lorsque Saint Thomas d'Aquin, par exemple, traite une question, il arrive à traiter la question de façon totale, parce que justement, rien n'est laissé sur le côté. Donc comment fait Saint Thomas d'Aquin? Donc Saint Thomas d'Aquin, quand il analyse une question, quelle question, eh bien, il va d'abord poser la question qu'on se pose. Par exemple, y a-t-il trois personnes dans la Sainte Trinité, en Dieu? Bon, c'est la question générale. Après, il va analyser d'abord les objections, c'est-à-dire tous ceux qui sont contre cette vérité. Donc il y a les Ariens qui disent que la deuxième personne de la Sainte Trinité n'est pas Dieu. Il y a d'autres hérétiques qui vont prétendre qu'il y a quatre personnes de la Sainte Trinité, etc. Bon. Et ensuite, il va répondre avec l'argument d'autorité, le principe de l'Église. L'Église a enseigné toujours qu'il y a trois personnes dans la Sainte Trinité. Et après, il reprend chaque argument pour répondre à la première objection qui disait que, selon Arius, notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas Dieu, mais une créature, la plus première créature de Dieu, la réponse est la suivante. Il va répondre à la première objection, puis réponse à la deuxième objection, puis réponse à la troisième objection. De telle façon que lorsque Saint Thomas d'Aquin a terminé de répondre à toutes les objections, il peut en rajouter. Et donc c'était extraordinaire, autant de Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin faisait tout ça à l'époque, c'était au Moyen-Âge, donc il y a des niveaux intellectuels très largement supérieurs aux nôtres actuellement, souvent devenus des petits gars, nous, voilà, des cerveaux qui sont gros comme des pois chiches, hein. Mais il faut aller voir les cerveaux de ces grands philosophes du Moyen-Âge, qu'il y avait justement une science qui était beaucoup plus fine que la nôtre, parce qu'il y avait une foi beaucoup plus forte que la nôtre. Et bien donc, saint Thomas d'Aquin était capable de répondre à ses argumentations sans papier. Donc c'était des discussions théologiques, discussions de l'école, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait, c'était ouvert à certains jours de l'année, certains jours du mois, n'importe qui pouvait venir poser des questions au maître. Et le maître, il devait être capable de répondre aux questions absolument sans papier, donc tout devait être incorporé dans sa cervelle, il devait répondre à toutes les aux questions, expliquer tout, être capable de répondre à toutes les questions qui étaient posées. Et donc ce que faisait saint Thomas d'Aquin, c'est qu'il répondait par avance à toutes les questions. Donc il allait aligner d'abord toutes les objections contre la question qu'il traitait. Et après il répondait à toutes ces objections, ce qui fait quand il terminait, qu'il finissait par demander « Est-ce qu'il y a des objections ?» Et personne n'avait rien à dire parce qu'il avait déjà tout traité. Et c'est ça qu'il faut s'habituer à faire. Être capable, si vous voulez, c'est pas évident, mais être capable de répondre à une question en utilisant justement les quatre causes pour arriver à définir de quoi on parle. Alors ici, donc, je reprends rapidement donc les différentes circonstances. C'est ce qu'on appelle les accidents, c'est ça les circonstances. Donc, tiens, cette circonstance qui sont ici. Alors pourquoi, avant d'expliquer ça, pourquoi est-ce qu'on a du mal à juger correctement des choses, à agir avec prudence, en suivant le don de conseil? C'est que justement, le plaisir, la convoitise, va corrompre le jugement. Parce que, je ne sais plus sur le tableau. Donc, la concupiscence, c'est quoi? La concupiscence, c'est quelque chose qui va blesser la recherche qu'on a des choses qui nous plaisent. Bon, on a le droit de chercher des choses qui nous plaisent, mais c'est là d'où intervenir la raison pour nous limiter les choses qui nous plaisent aux choses qu'on a le droit d'aimer. On n'a pas le droit d'aimer n'importe quoi. D'accord? Donc, c'est là où va intervenir, justement, la raison éliminée par la foi. Alors, le plaisir, le plaisir, c'est-à-dire la concupiscence, en gros, c'est ça. La concupiscence va corrompre le jugement de la prudence et donc empêcher le don de conseil de s'exercer correctement. Et donc, c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut bien comprendre, c'est que dès que les tentations, par exemple les grandes tentations des trois concupiscences, soit la chair, soit les yeux, soit l'orgueil, dès que ces grandes concupiscences travaillent, ça va corrompre le jugement de la prudence qui ne va plus être capable de s'exercer correctement. Comme la prudence n'est plus capable de s'exercer correctement, donc le don de conseil ne va plus avoir, si vous voulez, c'est à plus de savoir comment travailler sur la prudence. Oui, parce que les dons du Saint-Esprit, ils s'exercent, bien sûr, ce sont des grâces du bon Dieu qui viennent de la grâce sanctifiante. Je vous ai déjà dit, les dons du Saint-Esprit n'existent pas dans une âme qui est en état de péché mortel. Si vous êtes en état de grâce, vous avez les dons du Saint-Esprit. Mais il faut encore que les dons du Saint-Esprit puissent s'exercer sur une âme qui est préparée à les recevoir. C'est pour ça que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les vertus ne sont pas simplement surnaturelles. Les vertus surnaturelles, pour pouvoir travailler, dans bien des cas, vont devoir utiliser les vertus naturelles. Et les vertus naturelles doivent être données aux enfants par la répétition des actes. C'est comme ça qu'on fait rentrer les vertus. Pour faire obéir un petit chien Marius, là, on est obligé de répéter 25 000 fois la même chose. Et encore, il n'a rien compris. Mais lui, il n'a pas de raison. Il n'a pas l'usage de sa raison. Donc on ne peut pas faire travailler, si vous voulez, une puissance de son âme, puisqu'il n'a pas d'âme intellectuelle. Bon. Par contre, pour un enfant, la pire des choses qui puisse arriver pour un enfant, c'est de ne pas avoir justement reçu dans ce jeune âge l'exercice d'apprentissage des vertus naturelles. S'il n'y a pas les vertus naturelles, les vertus surnaturelles n'ont rien pour attirer. Elles ne peuvent pas s'accrocher parce qu'il n'y a rien pour s'accrocher. Et à ce moment-là, les dons de son esprit ne peuvent plus s'exercer. Certes, le bon Dieu peut faire du miracle, c'est vrai, mais ça reste du domaine du miracle. Donc les vertus naturelles, ça on verra bien ça avec saint Thomas d'Aquin, ont une importance énorme. Donc il y a par exemple une vertu surnaturelle de par exemple d'honnêteté, mais il y a une vertu naturelle d'honnêteté. Il y a un courage surnaturel, par exemple le courage des martyrs pour aller à la mort, et il y a un courage naturel. Eh bien quand on commence à avoir un courage naturel, il est plus facile d'avoir un courage surnaturel. Pourquoi? Parce que le courage surnaturel aura quelque chose sur lequel il peut s'accrocher. C'est ça le drame aujourd'hui, c'est que dans la plupart des familles, malheureusement, les parents ont complètement abdiqué, ne cherchent plus à donner les vertus naturelles aux enfants. Les enfants n'ayant plus ces vertus naturelles, les vertus surnaturelles n'ont rien pour s'accrocher. C'est une comparaison que faisait Monseigneur Williamson, qui nous donnait des cours de philo ou des cours de théologie au séminaire, mais elle est bonne, son image. Il disait, c'est comme si un hélicoptère voulait atterrir quelque part, il faut qu'il y ait un endroit où il puisse atterrir. Imaginez qu'il y a des arbres partout sur votre terrain, l'hélicoptère ne peut pas atterrir. Donc il faut une piste d'atterrissage pour que l'aéronef ou l'avion puisse atterrir. Bon, donc ça c'est du niveau naturel. Ensuite, s'il y a les vertus naturelles, à ce moment les vertus surnaturelles vont pouvoir travailler beaucoup plus facilement. Certes, dans certains cas, c'est vrai que les vertus surnaturelles peuvent travailler sans l'exercice précédent des vertus naturelles. Mais en général, tout se passe en suivant d'abord les vertus naturelles. D'où la nécessité absolue, par exemple, de la vertu fondamentale, qui est la vertu du futur chef, qui est la vertu de d'obéissance. La prudence, c'est la vertu du chef. Mais la vertu qui prépare le chef, c'est la vertu d'obéissance. Mais ça, c'est fondamental à comprendre. Il faut expliquer ça aux parents tout le temps. C'est-à-dire, si vous n'apprenez pas aux enfants à obéir, votre enfant sera incapable d'agir avec prudence, parce qu'il va suivre ses passions au lieu de suivre l'intelligence et la lumière de la foi, la lumière surnaturelle. Et donc il va suivre ses propres concupiscences, il va suivre ses propres désirs, et à ce moment-là, c'est des catastrophes. Donc la grande vertu qui prépare les chefs, c'est la vertu d'obéissance. La vertu qui fait les chefs, c'est la vertu de prudence. Et le drame, c'est que si vous avez des jeunes qui ont 18-20 ans, que vous essayez de préparer à leur vie future de chef de famille, sur lesquels vous essayez de faire descendre la vertu de prudence, la vertu cardinale de prudence, avec l'aide du don, surtout du don de conseil, si cet enfant n'a pas appris à obéir, il n'y aura pas de prudence possible. Donc un enfant qui n'a jamais appris à obéir sera suprêmement imprudent. Pourquoi ? Parce qu'il n'en fera toujours qu'à sa tête. Et donc, en faisant qu'à sa tête, évidemment, par la force des choses, cet enfant sera extrêmement imprudent, sera donc incapable d'agir correctement dans le milieu dans lequel il vit. Et c'est ça le drame, c'est que dans beaucoup de cas, c'est comme ça, même parfois dans les milieux catholiques, les enfants n'ont pas été habitués à obéir. On a des obéissances qui sont des obéissances tout à fait imparfaites. Oui. Donc, l'obéissance, elle s'apprend tout petit, hein. Saint Augustin, qui a une formule un peu directe, il disait, les enfants, c'est comme les bateaux, ça marche pas le derrière. Mais c'est un peu vrai. Saint Augustin pourrait se permettre de faire sortir des vérités comme ça, mais c'est exactement ça. Et donc, le milieu moderne, la révolution qui cherche à supprimer toute action de force de la part des parents sur leurs enfants, c'est très bien ce qu'ils font. C'est très bien ce qu'elle fait. La révolution agit ainsi pour détruire la notion d'obéissance. Parce qu'ils savent très bien qu'un enfant qui n'a jamais appris à obéir, c'est un enfant qui est incapable de commander. Donc tous les enfants vont devenir des adultes incapables de commander, et donc ils seront à la merci de tout ce qu'on va essayer de leur faire rentrer dans la cervelle. Donc ils seront incapables de commander, donc ils sont tous au même niveau, et ils vont tous suivre les principes de la révolution. Qu'est-ce qu'ils vont demander ? Ils n'ont jamais appris à commander, ils vont donc demander des choses faciles, donnez-nous du pain et des jeux. Et c'est le monde moderne. C'est ce que déjà demandaient les barbares, donnez-nous du pain et des jeux. Eh bien, ils ont eu des pains et des jeux, et puis justement, ils n'étaient plus capables de se battre, plus capables justement d'exercer les vertus fondamentales, les vertus d'honnêteté, les vertus de courage pour arriver à être un bon soldat pour protéger les frontières. Du coup, il n'y avait plus assez de soldats, ou les soldats qui étaient plus assez forts à la fin de l'Empire romain, plus assez forts pour lutter contre les barbares, et les barbares ont absolument tout détruit. Les barbares ont détruit complètement l'Empire romain, précisément parce que dans l'Empire romain, on n'apprenait plus les vertus fondamentales. Et par contre, c'est ce qui a fait la force de l'Empire romain au début. Au début, au moment de l'arrivée du Christ, l'Empire romain, la force de l'Empire romain, c'est justement l'obéissance. L'obéissance, le respect des anciens, le respect de la famille, le respect du principe d'autorité, c'est quelque chose de fondamental. On dit que la Mlle Connette avait l'habitude de dire que la plus grande richesse de l'enfant, c'est la confiance qu'il doit avoir en l'autorité qui est au-dessus de lui. Et donc la première chose que va faire la révolution pour détruire une âme d'enfant, c'est détruire la confiance qu'il a en l'autorité de ses parents.
Aujourd'hui, on est gâtés.
C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'actuellement, ils sont en train de travailler dans la révolution actuelle pour pouvoir prendre contrôle des enfants dès l'âge de 3 ans maintenant. Ils veulent des enfants 3 ans dans les écoles pour les couper des familles parce qu'ils partent d'un principe purement révolutionnaire que les enfants appartiennent au pays, à la nation et pas aux parents. Donc c'est à la nation, au gouvernement, de s'occuper des enfants, de l'éducation des enfants, surtout pas les parents qui ne sont pas capables de faire le travail. Donc les parents, c'est la nation qui va s'en occuper pour être sûr que justement toutes les écoutilles sont grandes ouvertes dans l'âme des enfants pour qu'ils puissent justement, qu'on puisse leur inculquer absolument tout ce que la révolution veut leur faire inculquer, donc les grandes idées de liberté, égalité, fraternité. Pour pouvoir lutter contre les grandes idées, les fausses idées de liberté, d'égalité, de fraternité, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir les vertus naturelles. Et la première des vertus, la plus importante, c'est la vertu d'obéissance pour les enfants. La vertu d'obéissance pour les enfants qui prépare à l'usage de la vertu de prudence pour les adultes. La prudence n'est pas une vertu pour les enfants. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas demander à un enfant d'être prudent. L'enfant, par définition, est incapable d'être prudent. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas encore l'usage de sa volonté. Pour être prudent, il faut l'usage de sa volonté, c'est du bon sens. Donc au contraire, la prudence est une vertu uniquement pour les adultes. Donc, il peut y avoir une prudence naturelle et une prudence surnaturelle. Et donc il faut commencer par apprendre aux enfants les vertus naturelles pour que les vertus surnaturelles puissent s'exercer. Bon, certes, encore une fois, le bon Dieu peut prendre des raccourcis et travailler directement sur les âmes qui n'ont pas les vertus naturelles, mais quand il y a les vertus naturelles, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça qu'en fait, faites très très attention. On a trop tendance dans les milieux dans les milieux catholiques, justement, de considérer les enfants comme des petites merveilles irresponsables et d'oublier que l'enfant, il a un petit démon en lui, et ce petit démon, c'est le démon de la désobéissance. Donc la plus grande protection que vous puissiez donner à un enfant, c'est de l'obliger à obéir, d'apprendre à obéir. Et encore une fois, pas une obéissance à deux temps, pas une obéissance, mais une obéissance immédiate. On voit tout le temps ça dans les familles, des mamans, un papa qui donne un ordre à un enfant, et l'enfant ne répond pas immédiatement. Quand un ordre est donné à un enfant, moi j'explique toujours ça au confessionnal pour les tout petits, et même les grands, quand un ordre est donné à un enfant qui ne réagit pas immédiatement, et qu'il attend qu'il continue de faire son jeu tranquillement, qu'il réagit au bout de 10 minutes pour faire ce que maman vient de demander, c'est plus une obéissance, c'est déjà une désobéissance. Il faut expliquer ça à l'enfant. Parce que l'enfant va dire, mais j'ai obéi. Non, je n'ai pas obéi. Parce que l'obéissance, elle devait arriver à tel moment. Maman a donné tel ordre, je me lève et j'obéis à l'ordre. À ce moment T, à ce moment précis, est-ce que vous avez obéi à l'ordre qui vous a été donné ? Ben oui, je l'ai fait. Non, vous ne l'avez pas fait. Pas au moment où vous l'avez donné. Vous l'avez fait 10 minutes après. Donc ce n'est pas de l'obéissance, c'est déjà de la désobéissance. Et c'est le drame des parents, parce que beaucoup de parents vont dire, il a fini par obéir, donc c'est pas si mal que ça. Non, parce qu'il n'a pas obéi quand il devait obéir. Donc c'est une désobéissance. Et encore un enfant qui désobéit, il sera encore une fois un adulte incapable de commander. C'est ça le drame. Parce que comme la prudence est la vertu du chef, quelqu'un qui n'a jamais appris à obéir comme enfant sera incapable de commander. C'est pour ça qu'on a tous ces problèmes actuellement. La plupart des hommes sont venus des nouilles. Pourquoi ? Parce que justement, ils n'ont jamais appris à obéir dans les familles. Donc le plus grand service que vous puissiez rendre à vos enfants, c'est les obliger à obéir. Et c'est pour ça que dans le monde moderne, la révolution fait tout pour empêcher, mettre des bâtons dans les roues constamment des parents, des bâtons dans les roues des parents, pour qu'ils ne puissent plus exercer leur autorité. Même dans les écoles catholiques maintenant, l'État va vous obliger dans bien des cas, par exemple, à avoir un numéro spécial où les enfants peuvent appeler si leurs supérieurs directs, c'est-à-dire leurs parents, les obligent à faire quelque chose. Donc, vous voyez, un peu où on en arrive. C'est-à-dire, maman demande, viens m'aider pour faire la vaisselle, je ne veux pas. Maman m'oblige à faire la vaisselle, j'ai le droit d'appeler ce numéro de téléphone, et de dire, mes parents m'obligent à faire la vaisselle alors que je ne le veux pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire au téléphone ? Il ne faut pas obéir à papa et maman, parce qu'ils n'ont pas le droit de vous demander de faire la vaisselle si vous ne voulez pas le faire, il faut que ça vienne de vous. Et ça, c'est partout. Parce que avant, c'était dans les écoles, maintenant, ça va être dans les familles. Ça, ils vont y arriver, parce que dans toutes les familles, les enfants aient un numéro spécial qu'ils puissent appeler pour justement pouvoir se révolter contre leurs parents. C'est un drame, c'est comme ça que ça se passe. Hein.
C'est pour les maltraitances, là, normalement, c'est pas pour les...
Mais oui, mais ils ont appelé ça une maltraitance. Dans le monde moderne, de donner une fessée à votre enfant, c'est une maltraitance. De donner un ordre à un enfant, c'est déjà une maltraitance. Donner un ordre à un enfant, c'est déjà lui indiquer ce qu'il doit faire, ce dont la révolution ne veut pas. Il veut que chaque enfant déduise par lui-même, détermine par lui-même ce qu'il veut faire. Il n'y a pas le hasard. Et pourquoi ils font ça? Le but, c'est à ce moment d'avoir des hommes sans volonté, sans colonne vertébrale, qui puissent être manipulables à merci par le gouvernement. C'est exactement ce qui se passe. Donc, voyons donc ici les différentes circonstances. Donc, j'ai mis ici ce qu'on appelle les accidents. Donc, il y a, dans ce domaine-là, on dit qu'il y a 9 accidents. La quantité, la qualité, la relation, le lieu, l'habitus, la passion, l'action, le temps, la position, etc. Bon, ça, c'est des termes de philosophie. Mais on peut les réduire aux 4 causes. C'est pour ça que je vous ai parlé des 4 causes. Cause finale, cause matérielle, cause efficiente, cause formelle. Et une fois qu'on est capable de réaliser quelles sont les 4 causes, à ce moment-là, vous comprenez tout. L'exemple classique que j'utilise tout le temps pour aider les gens à comprendre l'importance des causes, que souvent les gens me disent, mais monsieur l'abbé, votre truc là sur les causes, c'est pas tellement important, c'est vraiment des détails. C'est pas du tout des détails. Bon, l'exemple qu'on peut prendre pour aider les gens à comprendre, c'est analyser les 4 causes par rapport à la révolution tant que telle. Bon, j'en ai déjà parlé à d'autres lieux, mais c'est très important. Quel est le but final de la révolution? Quelle est la cause finale de la révolution?
Hein? Rendre l'homme égal à Dieu.
C'est plus que ça.
Et
non, c'est plus que ça.
Quel
est le but final de la révolution?
La perte des âmes.
La perte des âmes. L'enfer. L'enfer pour les âmes. Amener le plus d'âmes possible en enfer. Donc c'est quelque chose de surnaturel. Si la fin est déjà surnaturelle, donc la cause efficiente sera quoi?
Surnaturel.
Quelle est la cause efficiente de la révolution?
Le démon.
Le démon qui est une cause principale et qui a à son service des causes secondaires, des causes accidentelles, des causes instrumentales. On appelle ça des causes instrumentales. Donc, le but, c'est de perdre les âmes. Donc, la cause qui va entraîner cette perte des âmes, laquelle est la cause finale, l'origine, c'est le démon. Puisque le but du démon, c'est évidemment d'emmener le plus d'âmes possible en enfer, d'empêcher les âmes de monter au ciel. Le démon va utiliser des instruments, on appelle donc ça des causes instrumentales. Les causes instrumentales, c'est toutes celles qu'on voit autour de nous. C'est la faiblesse des parents, c'est le communisme, c'est toutes les fausses religions, c'est la corruption morale actuelle, etc., qu'il y a partout. Bon. Donc, vous voyez, dès qu'on arrive à définir que la cause finale est quelque chose de surnaturel, ça oblige les gens à comprendre que la cause efficiente est une cause surnaturelle. Bon, si vous voulez vous battre contre une cause efficiente surnaturelle, il faut utiliser des moyens surnaturels. Est-ce qu'on peut se battre contre le démon avec des moyens purement naturels? C'est impossible. Donc après, cause matérielle, et puis cause formelle, cause matérielle, avec quoi travaille la révolution? La révolution travaille toujours avec 3 choses. L'orgueil, l'ignorance, et le troisième, c'est...
L'accès
des nouveautés. L'attraction des nouveautés, la curiosité en fait. Orgueil, l'ignorance, l'orgueil et l'attraction vers les choses nouvelles. Bon. Le plus important dedans, c'est l'orgueil, mais l'orgueil va immédiatement entraîner l'ignorance. D'accord? Et enfin, cause formelle, ça c'est justement là où ça coince en général avec beaucoup de fidèles qui ne veulent pas mettre la cause formelle. La cause formelle, c'est le processus démocratique. La forme que va toujours utiliser la révolution pour perdre les âmes, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, je fais ce que je veux. Égalité, on est tous égaux, il ne peut pas y avoir de différence entre nous. Et fraternité, il n'y a plus d'autorité. On est tous frères. D'accord ? Donc, une fois que vous avez... Alors, c'est intéressant, si vous voulez, d'essayer de répondre à ces questions toutes simples, avec d'autres choses. Une fois que vous avez réussi à définir une chose en fonction des 4 causes, vous voyez exactement où vous mettez les pieds. Et c'est pour ça que l'homme moderne n'aime pas définir les choses. Ils ne veulent pas d'une définition. L'homme moderne parle de tas de choses sans jamais définir le mot qu'il utilise. C'est le drame du monde moderne, c'est qu'ils vont utiliser des mots sans expliquer le sens qu'on donne à ce mot. Donc le monde moderne va utiliser des mots qui ont un sens précis pour nous, mais qui pour eux ont un sens complètement différent. Par exemple, le mot de liberté, le mot d'honneur, l'honneur, le mot de justice, etc. Ce sont des mots qui ont un sens précis pour nous et qui pour les gens qui sont en face de nous ont un sens complètement différent. À ce moment-là, il n'y a plus rien qui peut être fait. Donc, vous voyez, donc, je pense que les 4 causes, justement, les 4 causes vont réduire en quelque sorte les 7 circonstances pour aider à bien les définir. Et Saint Thomas va terminer cette partie en disant que la spécification de l'acte moral, c'est la fin. Donc la cause finale, pour lui, la cause finale, c'est le moteur en quelque sorte de l'action. quand on veut faire une action, l'action, ce qui va pousser l'homme à faire l'action, c'est la raison pour laquelle il veut faire l'action. Et ça, il faut comprendre. Si la cause finale est la perte des âmes, pour revenir à l'exemple de la Révolution, si la cause finale de la Révolution, c'est la perte des âmes, il faut donc utiliser un moyen surnaturel pour empêcher cette perte des âmes, il faut donc être en état de grâce. Parce que la seule façon d'empêcher l'action du démon sur une âme, c'est d'être en état de grâce. Si une âme est en état de grâce, à ce moment, le démon ne peut pas travailler sur cette âme. Mais là, dès que vous définissez la Révolution et les moyens comme ça, tout de suite, les gens ont poussé des hurlements parce qu'ils ne veulent pas la fin surnaturelle. Ils refusent la fin surnaturelle. Donc beaucoup de gens vont constater certains effets de la Révolution, mais refusent catégoriquement de bien définir la cause finale. Et il va y avoir par exemple tel mouvement politique comme ça qui vont définir la cause finale en la coupant de sa fin surnaturelle. Ce n'est plus la destruction des âmes. Ça va être par exemple, dans certains cas, la destruction de l'école. C'est vrai. Ou la destruction de la famille. C'est vrai. Mais il y a une cause beaucoup plus importante qui va englober toutes les autres, qui est le fait que la révolution veut la destruction des âmes. C'est ça qui compte. Parce que si vous voulez lutter pour protéger l'école, par exemple, très bien, on peut essayer de protéger l'école avec des moyens naturels. Mais si le but de la vie, le but de la révolution est la destruction des âmes, c'est-à-dire pousser les âmes à aller en enfer, là où est le démon, et que c'est le démon qui tire sur les ficelles pour nous pousser en enfer, il est évident que la seule façon de réagir contre l'influence du démon sera une action surnaturelle, donc le rôle des sacrements, donc le rôle de l'Église, donc le rôle du baptême et tous les sacrements qui suivent. Alors donc saint Thomas définit donc et dit l'acte moral est spécifié surtout par sa fin, c'est-à-dire c'est la fin F-I-N qui va déterminer toutes les circonstances qui vont suivre. Donc, quand on essaye d'analyser quelque chose, il faut d'abord essayer de répondre par la question de la fin. Tiens, pourquoi les gens agissent ainsi? Quel est le but? Prenez un exemple tout simple. Prenez par exemple ce qui se passe actuellement, la théorie du genre et tous ces machins-là qui sont poussés maintenant partout dans le monde moderne. On peut passer des heures à définir ces choses-là. Et premièrement, la fin, quel est le but de la manœuvre? Quel est le but de la manœuvre? Pour dire aux gens qu'on n'est pas garçon et fille, mais que chacun se fait garçon et fille. La cause finale, c'est-à-dire la raison, c'est quoi? La raison, c'est de déboussoler complètement les gens pour qu'ils puissent vivre dans le péché jusqu'au coude. Jusqu'au coude, c'est-à-dire que je fais ce que je veux, donc j'ai le droit de vivre dans le péché, et puisque ce péché est reconnu par l'État, donc c'est plus un péché. Et après, va intervenir l'élément du nombre, tout le monde le fait, donc c'est plus un péché, puisque d'abord, tout le monde le fait, et ensuite, parce que j'ai le droit de le faire. Oui. Alors, si vous remontez à la cause finale, attention, le but c'est la damnation du plus grand nombre. C'est ça la cause finale de la révolution. La damnation du plus grand nombre, à ce moment ça change tout. Alors, il y a des très très bons articles qui ont été écrits, entre autres, de très bons livres qui ont été écrits, par exemple, surtout par Mgr Baume, l'abbé Barbier, tous ces grands contre-révolutionnaires du 19e, Mgr Baume, Mgr de Ségur, Mgr l'abbé Barbier, Mgr de Lassus, tous ces grands gaillards du 19e siècle qui avaient énormément, qui avaient du temps pour écrire, qui ont très très bien défini ça. Pour ceux qui ont un peu le temps, moi je conseille un livre que j'ai jamais eu le temps de lire, je regrette bien, d'ailleurs j'aimerais bien trouver le temps de lire, c'est La Révolution de Mgr Baume. Je crois qu'il y a 14 volumes. Bon, alors c'est évidemment, c'est un gros morceau, mais si j'avais le temps, je suis sûr qu'il y a un livre que j'aimerais bien lire, c'est ça. Une réduction de toute l'œuvre de Mgr Baume, vous le trouvez par exemple dans la conjuration antichrétienne de Mgr de Lassus. Ça résume parfaitement toutes les grandes idées philosophiques qui étaient derrière, si vous voulez, la contre-réaction catholique. Mais c'est ça, une fois qu'on a compris ça, la révolution veut la perte des âmes, donc je dois utiliser des moyens surnaturels. Et puisque le but, la cause finale étant la damnation du plus grand nombre, si je suis pas en état de grâce, ça ne sert à rien. Donc, si vous avez compris ça, la conséquence sera toute simple. La première condition pour être un bon contre-révolutionnaire, c'est quoi? C'est d'être en état de grâce. Quelqu'un qui n'est pas en état de grâce ne peut pas être un contre-révolutionnaire. Et ça, évidemment, dans le monde moderne, ça ne passe plus. Même dans les milieux dits de droite. Vous expliquez dans les milieux dits de droite, mais qui n'ont pas la notion catholique de la révolution, vous expliquez que la première condition pour être un contre-révolutionnaire, c'est l'état de grâce. Ils vont regarder avec des yeux ronds, mais ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Pour eux, ça n'a aucun sens. Et vous voyez, donc ils vont vous dire, mais non, la contre-révolution, il faut lutter contre la révolution par toute une série de moyens naturels. Mais non, il faut des moyens surnaturels. Et si vous cherchez à lutter contre la révolution
surnaturel négatif, le démon avec des moyens naturels, c'est comme si vous voulez, si quelqu'un essaie d'attaquer un chat avec une sarbacane, quoi. En gros, c'est ça. On ne peut plus rien faire parce qu'il manque l'essentiel. D'accord ? Alors.
Chat.
Quoi ?
C'est possible.
Non, un chat. Pas un chat. Bon. Alors, j'ai mis ici lettre plus noire, donc en bas de la page 35, c'est la phrase importante à mon avis de saint Thomas d'Aquin. Donc il dit d'abord, chaque fois que l'on veut les moyens, on veut la fin par le même acte. Bon, saint Thomas, comment il va faire? Pour expliquer ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la liberté, c'est le choix des moyens pour atteindre la fin. Donc tout doit être mené par la fin, il vient de le dire juste avant. Il dit, l'acte moral est spécifié surtout par sa fin. Donc c'est la cause finale qui tire, si vous voulez, qui est le but qu'on cherche à viser. La cause finale, c'est la fin, et donc les moyens doivent être soumis à la fin. Et c'est toute la notion de vraie liberté est prêchée par saint Thomas d'Aquin, le choix des moyens pour atteindre la fin. Alors que la révolution dit le contraire, c'est le choix de la fin qui va justifier l'utilisation des moyens, c'est-à-dire la fin justifie tous les moyens. Vous faites n'importe quoi du moment que la fin est atteinte. Donc la révolution, c'est de faire croire à tous les membres qui suivent la révolution que le but de la vie, c'est de choisir sa fin. Or, l'homme ne peut pas choisir sa fin. Il choisit les moyens pour atteindre la fin. Ça change tout. Une fois que les gens qui sont en face de nous ont compris qu'on ne choisit pas les moyens, on ne choisit pas, pardon, excusez-moi, la fin, mais on choisit les moyens, ça change tout. On a compris ce qu'est la révolution. La révolution, c'est donc une inversion des valeurs qui, au lieu de inverser la formule catholique qui va dire « Je choisis les différents moyens pour atteindre la fin qui m'est imposée de l'extérieur hein, », c'est la faculté, donc c'est l'usage, le vrai usage de la liberté, c'est ça, des grandes définitions de saint Thomas de la liberté, c'est ça, la faculté du choix des moyens pour atteindre la fin. C'est-à-dire, j'ai dans mon âme un choix de différents moyens pour atteindre une fin qui m'est imposée. Je n'ai pas le choix de la fin. Et donc la révolution inverse tout en disant vous choisissez votre fin et donc la fin justifie tous les moyens. Une fois commencé par la fin, choisissez la fin que vous voulez, la fille, hein. Une fois que vous choisissez votre fin, à ce moment-là, vous pouvez amener tous les moyens que vous voulez. Du moment que la fin est sauve, c'est ça qui compte. Or, pour le catholique, c'est l'inverse. Vous ne pouvez pas choisir votre fin. C'est la fin qui nous est imposée de l'extérieur. Que ça vous plaise ou non, tous on va mourir. Que ça vous plaise ou non, tous on a été créés par Dieu. Que ça nous plaise ou non, tous on va être jugés par Dieu le jour de notre mort. Donc le but de la vie, c'est quoi? C'est d'aller au ciel. Et donc de même que la révolution a pour cause finale la damnation du plus grand nombre, l'Église catholique va avoir pour cause finale le salut du plus grand nombre. Donc on peut reprendre, si vous voulez, les quatre causes. Cette fois-ci pour définir l'Église catholique. L'Église catholique, quelle est la cause finale de l'Église catholique? Le salut des hommes, évidemment. Quelle est la cause efficiente? Donc, qui va être utilisé par Dieu pour amener justement les âmes à travailler vers le bon Dieu? Donc, la cause efficiente, c'est Dieu. Mais qui est Dieu qui va théoriser des causes instrumentales? Quelles sont les causes instrumentales? D'abord, en principe, le sacrement de l'ordre. C'est pour ça que le bon Dieu a institué le sacrement de l'ordre. Donc, les prêtres sont là pour être au service de la cause principale. Donc la cause efficiente, c'est Dieu. La cause matérielle, c'est quoi?
Les sacrements.
C'est les sacrements, c'est ça, c'est la vertu. La cause matérielle, la cause formelle, c'est justement l'esprit contre-révolutionnaire et la lutte contre la cause formelle telle que la révolution la propose. Et donc, contre la liberté, l'égalité, la fraternité, et bien contre la liberté, il va y avoir quoi? L'obéissance. Hein, contre l'égalité, il y aura la justice, et contre la fraternité, la vertu de charité. Donc là, l'Église va, si vous voulez, embrayer sur les grandes vertus surnaturelles qui vont bloquer justement les grands axes, par exemple, excusez-moi, de la révolution. La révolution travaille toujours avec liberté, égalité, fraternité. La contre-révolution va toujours travailler avec les vertus opposées, surtout la vertu d'obéissance, la vertu de charité et la vertu de justice. D'accord ? Alors voilà ce qu'il dit ici. La raison, donc en bas de la page 35, la partie en grand, là, la raison qui englobe la volonté, donc la raison est au-dessus de la volonté,
La révolution meut par son commandement l'irascible et le concupiscible, non de façon despotique. Un despote, c'est quoi?
Un tyran.
C'est un tyran. Hein? Non de façon despotique et tyrannique, comme l'esclave est mu par son être, mais selon un pouvoir royal et politique, à la manière dont les hommes libres sont conduits par leur gouvernant, tout en gardant la faculté d'agir en sens contraire. Ça, c'est une phrase splendide, mais c'est assez compliqué. Qu'est-ce qu'il veut dire saint Thomas d'Aquin? C'est que le bon Dieu va illuminer notre volonté, mais il ne va pas détruire notre libre arbitre. Il illumine notre volonté, mais la volonté garde en elle-même le pouvoir de dire non. C'est ça le drame. Si on perdait en nous le pouvoir de dire non, ce serait quand même bien plus simple. À ce moment, on serait des machines. Un robot n'a pas un pouvoir. Dans un robot, un robot ne peut pas dire non. Il est obligé de suivre son programme. Et il croyait qu'il le meut, si vous voulez. Au contraire, pour un homme catholique, donc la raison va intervenir sur la volonté, mais pas comme un chef d'esclave agit sur ses esclaves, mais plutôt comme un père agit sur ses enfants par l'amour qu'il a pour eux. Oui. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Une fois qu'on a compris ça, on comprend beaucoup de choses. D'accord ? Donc, de là vient que le concupiscible et l'irascible ont le pouvoir de mouvoir contrairement à la volonté. Ainsi, rien n'empêche que la volonté soit parfaite, parfois mue par eux. Beaucoup d'hommes obéissent à leurs passions auxquelles les sages seuls résistent. Donc le sage, c'est celui qui résiste à ses passions. Et donc, contrairement à ce qu'on croit, la personne qui est vraiment libre, c'est laquelle ? C'est celle qui est capable de résister à ses passions. Donc qu'est-ce qui donne la liberté, la grande liberté à une âme ? Justement, les vertus spéciales qui vont empêcher les passions de prendre le contrôle de tout ce qu'on fait. Et ces grandes vertus, c'est quoi? Pauvreté, chasteté, obéissance. Pourquoi? Parce qu'il y a trois concupiscences. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et l'orgueil. Contre la concupiscence des yeux, la vertu de pauvreté. Contre la concupiscence de la chair, la vertu de chasteté. Et contre la concupiscence des yeux, la vertu de... Non, l'orgueil contre l'orgueil, obéissance. D'accord? Donc... Les gens qui sont les plus libres sont qui ? Sont les gens qui ont, en quelque sorte, qui s'obligent à suivre toujours ce qu'il y a de plus parfait en utilisant leur intelligence, leur volonté, pour garder les trois vœux, pour voter sur cette obéissance. Donc les gens qui sont les plus libres sur la terre sont qui ? Sont les religieux. Alors, quand vous expliquez ça à un révolutionnaire, il va regarder, il va vous dire, mais comment, vous êtes dans un couvent, vous êtes derrière l'église du couvent, vous êtes des esclaves, c'est ce qu'il dit tout le temps. Et expliquer à un révolutionnaire qu'une jeune fille va aller s'enfermer dans un couvent de carmélite, dans un carmel, derrière une grille pour toute sa vie. La révolution va dire, mais vous devenez une esclave, c'est ridicule. Et qu'est-ce qu'il faut répondre ? Non, parce que justement en utilisant les trois vertus de pauvreté, chasteté, obéissance, je trouve ma vraie liberté. Et c'est au contraire les gens révolutionnaires qui sont esclaves de leur passion, qui n'ont pas les moyens de réfréner leur passion, qui donc sont dans l'esclavage. Donc les véritables esclaves, ce n'est pas justement ceux qui sont sous pauvreté, chasteté, obéissance, les esclaves sont ceux qui sont incapables de lutter contre leur passion. D'où l'importance, c'est qu'on retrouve les mêmes choses essentielles, à savoir la nécessité pour les parents d'apprendre aux enfants à obéir. Parce qu'en apprenant aux enfants à obéir, vous allez leur apprendre à dominer leur passion. D'accord ? Alors, c'est pour ça qu'il y a cette phrase qui est belle de saint Thomas : beaucoup d'hommes obéissent à leur passion, auxquelles les sages seuls résistent. Donc, la vraie sagesse, c'est quoi ? Quelle est la sagesse suprême ? La sagesse suprême, c'est d'être capable de résister à ses passions. Au contraire, le révolutionnaire, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que toutes les passions éclatent. Et comme exemple, on peut donner certainement un des hommes qui a fait le plus de mal dans ce domaine. C'est Freud. Freud a eu une influence épouvantable tous les années 50. Moi, j'ai connu en fac, aux années 50-60. Pourquoi ? Parce que Freud, qu'est-ce qu'il disait Freud ? Freud était quelqu'un qui disait « L'Église catholique vous a demandé de refouler vos passions ». De les maîtriser, de les maintenir en quelque sorte dans un coffre fermé pour qu'elles ne viennent pas tout détruire. Au contraire, il faut ouvrir le coffre et utiliser vos passions pour pouvoir justement trouver la véritable liberté.
Et donc, Freud enseignait les hommes qui suivent la foi catholique, enfin, c'est ce qu'il voulait dire, les hommes qui suivent la foi catholique qui va réfréner les passions sont en fin de compte des esclaves. Pour trouver la vraie liberté, qu'est-ce qu'il faut? Ouvrir le corps et suivre toutes vos passions. Et en plus de ça, lui raconter que la passion qui menait tout, c'était la passion sexuelle. Et donc, Freud a eu une influence catastrophique. C'est ce qu'on appelle la libido de Freud. Toute la psychanalyse, c'est ça. Psychanalyse, c'est la libido de Freud. Et donc, le psychanalyste va, au contraire du prêtre, le prêtre va dire aux gens, vous avez des passions, il faut leur apprendre à les réfréner, apprendre à être maître de vos passions par les vertus fondamentales du chrétien. Surtout par la vertu pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Le psychanalyste révolutionnaire, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, au contraire, il faut évacuer tout ça, éliminer tout ça, pour être enfin libre. Vous allez avoir la liberté d'utiliser vos passions comme vous le voulez. Résultat des courses, c'est comme si vous voulez, si on ouvre la boîte de Pandore et on laisse les enfants faire n'importe quoi, c'est ce qui se passe actuellement. Et du coup, les enfants sont tous
malheureux. En même temps, c'est suicidaire.
Mais c'est du suicide. Mais c'est fait volontairement. C'est fait volontairement parce qu'ils savent très bien que quand un jeune a appris de ses parents, parce que ça vient de la formation familiale, a appris de ses parents à être maître de ses passions, à ce moment-là, il va être capable de vivre, vertueusement. Si au contraire, la révolution, l'esprit révolutionnaire est passé par là, elle a détruit cette maîtrise des passions, il va à ce moment-là devenir l'esclave de ses passions, il devient l'esclave. On devient l'esclave des choses qui nous mènent, esclave des choses que nous aimons. Et d'où l'importance absolument fondamentale dans l'éducation des enfants, de donner aux enfants l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté et l'esprit d'obéissance. Alors, je vais continuer un petit peu, pas trop, parce que je vois que beaucoup sont très fatigués là. Alors, courage. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un peu la conclusion de tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que la seule solution est une solution surnaturelle. Il n'y a pas de seule solution naturelle à tous ces problèmes. La solution surnaturelle est l'unique solution. Et c'est ce que va dire ici Saint-Thomas, en bas de la page 35, Dieu meut la volonté de l'homme en qualité de moteur universel vers l'objet universel de la volonté qui est le bien. Donc, c'est en bas de la page 35. Vous avez vu là ? Tout en bas. Bon. Bas de la page 35, dernier paragraphe. Dieu meut la volonté de l'homme en qualité de moteur universel vers l'objet universel de la volonté qui est le bien surnaturel. Sans cette motion universelle, l'homme ne peut vouloir quelque chose, mais par sa raison, il se détermine à vouloir ceci ou cela, vrai bien ou bien apparent. Donc, l'intelligence va d'abord utiliser, si vous voulez, son pouvoir pour nous faire utiliser correctement notre volonté, mais ça ne suffit pas. Dans bien des cas, puisque le démon travaille, il va falloir que l'intelligence soit dominée par quelque chose de supérieur à l'intelligence, à savoir la lumière de la grâce sanctifiante, la lumière de la foi. Donc, si vous voulez, au-dessus de l'intelligence, au-dessus de la volonté, au-dessus des passions, il y a quoi ? La volonté. Au-dessus de la volonté, l'intelligence. Au-dessus de l'intelligence, il va y avoir la foi. Et au-dessus de la foi, la grâce. N'oubliez pas, attention, n'oubliez pas que la foi, sans la grâce, ça ne vaut rien. Si on tombe dans le protestantisme. Saint Thomas, Luther, qu'est-ce qu'il raconte ? Luther, il va raconter la foi seule sauve. Vous avez la foi, vous allez au ciel. Non ! La foi sans les œuvres, dit Saint Thomas d'Aquin, la foi sans les œuvres, ça ne vaut rien du tout. D'accord ? Alors, voilà ce que la conclusion, donc la dernière phrase de la page 35. Cependant, Dieu meut parfois, certaines de façon spéciale, à vouloir avec détermination quelque chose de bon, ainsi ce qu'il meut par la grâce. D'accord ? On va finir ce paragraphe-là, puis je vous laisse, hein, parce que vous êtes trop fatigué. Ce qu'il meut par la grâce, c'est la grâce du bon Dieu qui va nous obliger, en quelque sorte, à utiliser correctement les pouvoirs intellectuels qu'il a mis en nous. Par nature, dit saint Thomas d'Aquin, l'homme ne veut pas simplement l'objet de la volonté, mais encore tout ce qui convient aux autres puissances, par exemple la connaissance de la vérité qui est affaire d'intelligence. La fin ultime meut nécessairement la volonté, car elle est un bien parfait. N'oubliez pas ce qu'il a déjà dit auparavant, à savoir l'acte moral est spécifié d'abord par sa fin. Donc, sous la motion divine, des causes nécessaires produisent leurs effets de façon nécessaire, des causes contingentes produisent leurs effets de façon contingente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu agit sur notre âme en respectant notre liberté, notre libre arbitre. C'est ça le drame. Dieu n'est pas un chef d'esclave. Il veut nous amener au ciel, il nous fait comprendre que le ciel est pour nous, mais il ne nous oblige pas à y aller. Et tout a été détruit
par la, le choix mauvais qu'ont fait Adam et Ève, le choix de la désobéissance contre le bon Dieu, de choisir la pomme. Et la pomme, le Père de l'Église dit, cette pomme, c'est ce que représente la liberté. En prenant la pomme, le démon leur a fait croire, si vous prenez la pomme, vous deviendrez comme des dieux. Et en fait, en prenant la pomme, qui représente la liberté, les âmes sont devenues des esclaves. Parce qu'ils ont perdu, justement, le contrôle de leur intelligence et leur volonté par la grâce divine. Hein. Donc, puisque la volonté est un principe actif non déterminé de façon unique, mais ouvert indifféremment à plusieurs effets, Dieu la meut sans la déterminer nécessairement à une seule chose. C'est-à-dire Dieu respecte notre libre arbitre. Son mouvement demeure ainsi contingent et non nécessaire, sauf à l'égard des biens vers lesquels il est mû par nature. Bon, il y a des biens qui, si vous voulez, qui vont être très déterminants. Par exemple, la faim, la soif, la fatigue, etc. Ça, on ne peut pas contrôler ces choses-là. Mais le bon Dieu, pour tout ce qui est du domaine intellectuel, nous demande justement d'avoir l'éclairage qui vient de la foi catholique. La foi catholique qui ne suffit pas, il faut au-dessus de la foi catholique, la grâce sanctifiante qui va agir sur la foi catholique. D'accord ? Bon, on va arrêter là parce que je suis tout fatigué. Alors, donc, prochain cours, si Dieu veut, jeudi prochain, tâchez de dormir d'ici là pour être capable de suivre le cours sans trop dormir. Alors, aujourd'hui, on est combien ? On est le 15 ?
16.
Voilà, 16 mars 17. Voilà, donc on a la page 36, on avancera, si Dieu veut, dans une semaine. On finit par une prière. Oh, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.